on commence avec les grands titres. Donc pour ce 12 août, les tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord qui ne désenflent pas. Et la Russie même s'en inquiète. Une catastrophe ferroviaire fait 37 morts en Égypte et plus de 120 blessés. Le résultat des élections au Kenya voit le président sortant reconduit dans ses fonctions. Et en France, c'est les livreurs de Deliveroo qui sont en colère. Et on débute donc ce journal avec l'escalade des tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord. Le président américain Donald Trump a réitéré ses menaces envers le gouvernement de Pyongyang après donc des menaces d'une attaque possible vers le territoire américain de Guam. Le président américain a par ailleurs réitéré son soutien envers l'île de Guam. On l'écoute.
He does anything with respect to Guam or any place else that's an American territory or an American ally, he will truly regret it.
Voilà, donc le président américain Donald Trump. Du côté russe, on se dit inquiet d'une guerre directe entre les États-Unis et la Corée du Nord. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a même déclaré que des menaces entre les deux pays sont bien réelles et que le fait même que la Corée du Nord ait l'arme nucléaire est totalement inacceptable. Il demande aux deux pays de signer l'accord russo-chinois sur la résolution de ce conflit. On écoute le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov.
I think that when the situation has almost come to blows, the first move away from this dangerous line in the sand should be made by the one who is stronger and smarter. Let's hope this happens.
Voilà donc les propos traduits du ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov. Alors jusqu'où Donald Trump peut-il réellement aller dans ce conflit? Élément de réponse avec Grégoire Pourtier pour RFI à New York.
La tirade guerrière de Donald Trump promettant le feu et la colère était, semble-t-il, improvisée. Mais le président américain n'en a pas moins, depuis, confirmé qu'il envisageait la manière forte contre Pyongyang. Ce vendredi, il a encore tweeté « Les solutions militaires sont maintenant complètement en place et prêtes à l'emploi si la Corée du Nord agit bêtement. Un nouveau test nucléaire entrerait-il dans cette catégorie ?» Dans la foulée, il a aussi relayé un message du commandement militaire américain dans le Pacifique indiquant que ses bombardiers n'attendaient plus qu'un ordre pour décoller. Trump a ajouté qu'il espère que Kim Jong-un trouvera une autre voie et il avait sans doute l'habitude de bluffer en tant qu'homme d'affaires. Mais il est désormais en possession des codes de l'arme atomique américaine et il ne semble pas avoir pris la mesure de ses responsabilités militaires ni même des capacités réelles de son armée. Il affirme qu'il a ordonné de rénover et de moderniser l'arsenal nucléaire américain alors qu'il a simplement réclamé une revue stratégique pas encore finalisée. Ainsi, son entourage militaire et diplomatique joue désormais sur un double tableau, tempérer ses ardeurs sans pour autant le froisser, tout en cherchant une solution afin d'éviter le scénario catastrophique d'un conflit armé, selon les mots du secrétaire à la Défense.
Voilà donc Grégoire Pourtier à New York pour RFI. En Australie maintenant, et le mariage pour tous, le leader de l'opposition Bill Shorten a déclaré être personnellement en faveur du vote pour le oui dans le référendum postal. Il a également dit qu'il soutiendra le Premier ministre dans le sens, avec en plus un appel du pied, il serait prêt à faire en partie campagne avec lui. On écoute Bill Shorten.
I would absolutely be honoured to stand on a platform, and if Malcolm Turnbull wanted to stand alongside with me, he would be most welcome. I think Australians would like to see our political leaders demonstrating a bit of unity.
Voilà donc Bill Shorten, le leader de l'opposition. En Égypte, maintenant, une catastrophe ferroviaire a fait au moins 37 morts. Deux trains sont entrés en collision à la sortie d'Alexandrie. Il y a également 127 blessés. Les explications et coups d'éclairage sur l'état du réseau ferroviaire dans le pays, donc en Égypte, avec Alexandre Bouchanti.
L'accident est dû à une erreur d'aiguillage. Le train venant de Port Saïd a été placé à l'arrêt sur la ligne que devait emprunter le train Alexandrie-Le Caire. La locomotive a heurté de plein fouet le train à l'arrêt, renversant ou détruisant une dizaine de wagons. Les chemins de fer d'Égypte, qui étaient le fleuron d'Afrique et du Moyen-Orient, ont commencé à péricliter depuis les années 60 du fait de manque de moyens et d'une gestion étatique calamiteuse. Les chemins de fer d'Égypte sont endettés de près d'un milliard d'euros à cause des prix très bas imposés par le gouvernement. Un voyage Le Caire-Alexandrie coûte par exemple 5 euros en première classe. Selon l'Office égyptien des statistiques, 12 000 accidents ont été enregistrés au cours des 10 dernières années. la pire catastrophe ferroviaire de l'histoire du chemin de fer égyptien avait eu lieu en 2002 quand les wagons d'un train avaient brûlé et tué 373 personnes.
Voilà, donc reportage et éclairage donc sur l'état du réseau ferroviaire en Égypte avec Alexandre Bouchanti pour RFI. 13h06, direction le Kenya maintenant. Réélection pour un second mandat du président Uhuru Kenyatta. Il devance son opposant avec près de 56% des suffrages. Des soupçons de corruption planent sur cette élection, mais d'après le président du bureau indépendant pour la surveillance donc de ces élections, les autorités de régulation sont satisfaites du déroulement du suffrage. On l'écoute.
We are confident that the manner in which these elections were conducted has demonstrated that the Commission has matured and joined the ranks of mature electoral management bodies. In turn, the country has joined the family of mature democracies that are able to conduct and deliver credible and fair elections.
Voilà, donc Wafula Chebukaki, le président du Bureau indépendant pour la surveillance des élections au Kenya. Et suite à ces résultats, des échauffourées ont eu lieu et sont également en cours. Reportage de Laure Brûlard.
Oui, alors, très vite après l'annonce des résultats, on a commencé à entendre des cris de colère et des bruits de ferraille s'élever du bidonville de Kondélé à Kisumu, là où des échauffourées avaient déjà éclaté il y a deux jours lors de l'annonce des premiers résultats qui donnaient Uhuru Kenyatta en tête. Alors on peut ce soir apercevoir des flammes à plusieurs endroits du bidonville. Les GSU, l'unité d'élite de la police kenyane, déployée sur place depuis plusieurs jours, est rapidement intervenue à coups de gaz lacrymogène. Il y a eu aussi des coups de feu et il y a maintenant des barrages de police autour du centre-ville. Il faut dire que depuis trois jours, la tension monte à Kisumu. Kisumu, où Raila Odinga est presque vénéré comme un dieu par certains. Les habitants ont donc suivi de près les différentes déclarations de la coalition de l'opposition NASA. L'opposition qui a d'abord rejeté les résultats provisoires et dénoncé un piratage du système informatique de la commission électorale, qui a ensuite affirmé détenir les vrais résultats de l'élection présidentielle donnant Raila Odinga gagnant et qui ce soir a même annoncé que le recours en justice n'est plus une alternative. Aujourd'hui, le patron d'un bar proche du bidonville de Kondélé m'a expliqué avoir fermé son établissement par peur de pillage. Ce soir pourtant, on n'en est pas encore là. Les violences ici aussi restent très localisées, tout comme dans les autres bastions de l'opposition. Les médias kényans rapportent d'ailleurs que des manifestations ont éclaté aussi dans d'autres zones de l'ouest du Kenya, à Siaya et à Migori.
Voilà, donc Laure Brûlard qui était pour RFI, en direct sur RFI au Kenya. En France, le ministre de l'écologie Nicolas Hulot veut présenter un nouveau dispositif de prime à la casse. C'est pour les voitures diesel, alors même que plusieurs dispositifs similaires ont échoué auparavant. Mais cette fois-ci, l'objectif est les ménages les plus modestes. Explication avec Ariane Gaffuri.
Nicolas Hulot veut aller plus loin que ses prédécesseurs. Le ministre de la Transition écologique veut porter la prime à la casse à 1 000 euros pour tous et à 2 000 euros pour les ménages les plus modestes. C'est le double du plafond antérieur. L'objectif est d'inciter les automobilistes qui n'en ont pas les moyens à se séparer de leur vieux véhicule diesel pour en acheter un plus propre, même d'occasion. Le dispositif actuel a échoué selon la Cour des comptes. La prime à la casse en vigueur est trop basse et ne concerne que les ménages non imposables. Seules 25 personnes en ont bénéficié en 2016 pour l'achat d'un véhicule d'occasion, alors que l'exécutif espérait convaincre 34 000 personnes. Le gouvernement cherche également à ménager ces foyers modestes. De nouvelles contraintes vont les pénaliser financièrement. Les taxes sur l'achat du diesel à la pompe vont être alignées sur celles de l'essence d'ici 2022. La taxe carbone va également grimper. Et petit à petit, les véhicules diesel seront interdits dans les grandes villes lors des pics de pollution.
Voilà donc Ariane Gaffuri pour RFI. À 13h10, la fin d'une vie qui est également la fin d'une histoire. Israël Kristal, un Israélien donc de 113 ans, est décédé cette nuit. Un mois, tout juste d'ailleurs avant ses 114 ans, il aura survécu à deux guerres mondiales et à la déportation dans le camp d'Auschwitz. Reportage et explication avec Christophe Paget.
Oui, Israël Kristal était né le 15 septembre 1903 en Pologne, alors sous domination russe, dans le village de Zarnau, trois mois avant que les frères Wright n'effectuent le premier vol au monde dans un avion motorisé. Il traverse la Première et la Seconde Guerre mondiale. Israël Kristal est juif. En 1939, les nazis l'enferment dans le ghetto de son village de Lodz avant de le déporter 4 ans plus tard dans le camp de concentration d'Auschwitz où il voit mourir sa femme et ses 2 fils. Mais Israël Kristal survit. À sa sortie, il ne pèse plus que 37 kilos. En 1950, il émigre avec sa seconde femme pour Israël, où il choisit la ville de Haïfa, dans le nord. Il tiendra jusqu'à sa retraite une entreprise de confiserie. Israël Kristal ne parlait pas beaucoup de l'Holocauste. On pourrait écrire 2 livres entiers pour chaque journée passée là-bas, confiait-il il y a quelques années au journal israélien Haaretz. Malgré tout, c'était selon sa fille quelqu'un de très optimiste qui, souligne-t-elle, en toute chose voyait du bien. L'an dernier, ce juif pratiquant célébrait sa bar mitzvah, cette cérémonie juive du passage à la majorité religieuse dont la Première Guerre mondiale l'avait privé. L'homme le plus vieux du monde laisse derrière lui 2 enfants, 9 petits-enfants et 32 arrière-petits-enfants.
Et une histoire incroyable également, Christophe Paget pour RFI. Retour en France maintenant et grosse déconvenue pour les livreurs de Deliveroo. L'entreprise de livraison de repas à domicile a subitement changé le mode de rémunération de ses livreurs. De l'heure, ils passent au paiement à la course et ça ne leur plaît pas. On écoute Ayash et reportage donc de RFI. Ayash est livreur de Deliveroo à Paris.
Au début, c'était sexy, c'était attirant. J'avais des amis qui me disaient, viens sur Deliveroo, on se tape des 1500 par mois. C'était tout bénef. T'achètes un vélo, tu peux le rentabiliser, même pas dans 15 jours. Mais voilà, c'est plus le cas.
Ayash sur RTL, quelques dizaines de livreurs manifestés ce soir à Paris pour réclamer une augmentation du prix de leurs courses. Mégane Fleury a rencontré Steven, livreur Deliveroo depuis le début de l'année.
En vérité, là aujourd'hui ce qui se passe, c'est qu'on passe une bonne partie de notre temps à être disponible pour la boîte, c'est-à-dire à être en temps de travail, disponible, habillé en Deliveroo, sur nos smartphones, à attendre une commande, et ce temps-là, il n'est pas payé. Par exemple, cet été, c'est très compliqué, il y a beaucoup de livreurs, très peu de commandes, et du coup, c'est extrêmement compliqué de se faire une idée de combien on va gagner à la fin du mois. Ça, c'est extrêmement problématique. Et puis pour louer un appartement, pour demander un crédit ou n'importe quoi, bah, en fait, on n'a aucune garantie fixe. Et d'où l'intérêt de la revendication des 2 commandes minimum payées.
Voilà donc pour ce journal. Coup d'œil météo avant de conclure donc cette édition. Coup d'œil météo pour aujourd'hui, ce samedi. Perth, il fera 19 degrés. Adélaïde, 17. Melbourne, 16. Hobart, 12. Canberra, 14. Sydney, 21. Brisbane, 26. Cairns, 28 degrés. Et Darwin, 33 degrés. Rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Les tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord qui ne désenflent pas et la Russie est même en présence de s'inquiéter. Une catastrophe ferroviaire fait 37 morts en Égypte. Les résultats de l'élection au Kenya voient le président sortant reconduit dans ses fonctions. Et en France, on vient de l'entendre, les livreurs de Deliveroo sont en colère.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench